Bon, ben le grand débat dont on parle, c'est celui lancé par le président français Emmanuel Macron.
Ouais, lancé en Normandie, à grand bourte-roule. Vraiment, les Français, ils ont l'art d'avoir de nommer leur lieu de façon extrême.
Tellement beau les noms de villages et de cantons français.
Donc, devant 600 maires, avec un des quatre grands thèmes qui étaient abordés, qui vont être abordés dans ce grand débat national, celui-là, c'était l'organisation de l'État, des collectivités et des services publics. Mmh. Donc, exactement ce dont on parlait tantôt. Et quand tu regardes le grand Bourtorold, tu te rends compte que c'est loin d'être un petit village abandonné de la lointaine Gaspésie, là. Tu sais, il y a des commerces, puis tout ça, il y a une vie. Mais en même temps, ils ont les mêmes problèmes. Il y a des services publics qui disparaissent, puis on l'a vu au moment des gilets jaunes un peu partout en France, et c'est vrai en santé, c'est vrai au niveau des postes, c'est vrai au niveau, j'imagine, des systèmes bancaires, bref, c'est vrai dans tous les aspects, et ça implique que les gens, donc, pour avoir... Ça allait jusqu'à, pour avoir une baguette, il faut faire 30 km en voiture. C'est rendu loin, là, quand le Français ne peut plus mettre sa baguette sous son bras, mais qu'il doit la mettre dans son auto. Donc, l'augmentation du prix du pétrole, ça explique un petit peu l'origine. Oui. Et c'est un des problèmes majeurs. La consultation. On peut... évidemment, il y a une façon cynique de regarder le lancement de ce grand débat national, c'est de dire on est en train d'essayer de récupérer. Puis quand on regarde les quatre thèmes, on voit que ça rejoint, disons que c'est une façon de faire une synthèse de toutes les revendications des Gilets jaunes, qui étaient souvent pas très cohérentes, pas nécessairement cohérentes. Ça allait de tout bord, tout côté. Il y a des gens qui ont dit, ben si on veut ramener ça, voici les thèmes. Est-ce que c'est de la récupération d'un mouvement populaire? Peut-être, mais en même temps, quand on regarde ce qui se passe avec les Gilets jaunes depuis quasiment plus que 2 mois maintenant, on se dit, mais il faut bien que quelqu'un trouve une façon de répondre à ce mouvement-là qui soit autre chose que d'être occuper les ronds-points puis faire des manifs à Paris. Ça en est un début de réponse. Voilà, moi, j'en suis là. Je pense que ce débat-là, qui va durer 2 mois, il risque d'être assez passionnant. Et mon Dieu, si tout à coup, il réussissait à amener un changement profond de la structuration, de la façon dont la France fonctionne.
Mais le problème, c'est que Emmanuel Macron, candidat de La République en marche, avait promis une sorte, on ne dira pas une réingénierie, parce qu'au Québec, le terme est un peu teinté, mais c'est un peu ce qu'il promettait. Hein? Il promettait une modernisation de l'État. Et là, le grand débat auquel les Français sont conviés à travers les mairies, à travers Internet... c'est de revoir comment on taxe les gens, comment on perçoit des impôts, comment on dépense, quel service de l'État devrait survivre, comment on aborde la transition écologique et aussi, finalement, quatrième thème, là, démocratie, citoyenneté, laïcité. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a eu une élection il n'y a même pas 18 mois. De mai 2017, non, 18 mois, ça va faire 2 ans. Mai 2017, Emmanuel Macron est élu. Et il y a quelque chose, je pense, à dire sur le fait que, bon, on va se rappeler que la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Là. C'est pas parfait, mais c'est mieux que tous les autres systèmes qui ont été essayés, me semble-t-il. Mais comment ça se fait que ces enjeux-là sont pas abordés dans des moments forts de la vie démocratique que sont les élections? Parce que ce à quoi Macron convie les Français, c'est un grand débat qui devrait avoir lieu pendant les campagnes électorales. Moi, c'est de ça que je m'étonne aujourd'hui. Je m'étonne que les dirigeants politiques en France soient étonnés de constater que les Français vivent un malaise depuis des décennies. Tu lis un peu les médias français, tu vas en France, tu regardes dans le plateau à Montréal le nombre de Français qu'il y a ici. Il y a quelque chose qui prend pas en France. Je sais pas c'est quoi, je sais pas à quoi ça tient, mais il y a comme un malaise pour un pays riche, pour un pays comme ça, qui a un bon niveau de vie, que tant de citoyens soient d'année en année, de décennie en décennie, fâchés, qui râlent comme ça, qui s'exilent, quelque chose qui marche pas. Et là, t'allumes 2 ans après, puis tu te dis, ah ben oui, les gens sont dans la rue, sont fâchés. Bien sûr, même si leurs revendications sont un peu échevelées.
Il y a, dans France, et la démarche origine de là, c'est comme si, je dis, il y a des gens qui ont réfléchi à aux manifestations des Gilets jaunes et qui ont dit, voici, grosso modo, comment leur discours s'articule. Il y a une réflexion qui est faite par une élite en France, et cette élite-là, elle est puissante en France. Elle est à la fois intellectuelle, c'est une élite de classe, c'est-à-dire que tu transmets à la fois ta fortune personnelle en France, mais tu transmets aussi le champ d'expertise où tu es devenu le chirurgien spécialisé ou bien non l'homme d'affaires. Il y a une transmission de telle sorte qu'il y a des clivages de classe sont beaucoup plus importants en France. Ça, franchement, quand
il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie.
Il y a un éditeur originaire de France là, qui m'écrit de temps à autre pour commenter bon, les Gilets jaunes et le mot hiérarchie revient.
Constamment.
Quand tu cherches un emploi à Paris, par exemple, et de dire, là, d'abord, un, en trouver, puis être capable de gravir les échelons, méchant défi, là.
Lève-toi de bonheur. Il y a plusieurs Français d'origine dans mon entourage, puis c'est symbolique, ça rejoint ce dont on parle. Et quand ils viennent ici, ils viennent vivre ici, ils viennent travailler ici, ils sont souvent fascinés par le fait que tu peux rencontrer le patron juste en allant cogner à la porte de son bureau. T'as pas besoin de rendez-vous, t'as pas besoin de passer par sa secrétaire, grosso modo. Mais en France, tu le dis, c'est une société hiérarchique. Je pense que ça fait partie du malaise. Tantôt, je disais, il y a bien des Français ici sur le plateau, c'est une image. Mais combien de Français s'exilent parce que les perspectives d'emploi sont souvent bouchées là-bas?
Mais tu disais, c'est pêle-mêle. Moi, quand je vois Macron qui annonce qu'il est prêt à reconsidérer les limites de vitesse,
ouais.
Tu sais, on n'est pas là dans... Mais pour une partie de la population, c'était une insulte de dire on ramène ça à 80 km/h et bon.
Et moi, je pense que le secret d'une potentielle, je pense pas que ça va être une réussite totale, mais il y a une possibilité de progrès parce que ils ont décidé qu'ils allaient s'adresser aux maires. Là, ils parlaient à 600 maires. Et ils ont raison. Cette analyse-là est juste. C'est-à-dire que le pouvoir politique accessible en France, c'est la mairie. Il y a des mairies partout dans le moindre bourg, le moindre village. Et si ces maires-là ont des préoccupations, ben là, il faut faire 30 kilomètres pour aller chercher du pain, ou ben non, des préoccupations très concrètes, faut limiter la vitesse ou l'augmenter. Là, on commence à toucher à quelque chose qui est probablement la meilleure forme de manifestation de démocratie citoyenne directe qu'on ait vue depuis longtemps ici.
Merci. Merci. On vous retrouve demain. Mettez vos, comme disait Séraphin, votre capot de poêle, puis sortez dehors, quand même.
Vos combines.
Vos combines.
Vous mettez combines aujourd'hui.
Oui, c'est 9h-5. 40 secteurs de Repentigny.